Cette semaine, l'actualité politique continuant d'occuper le devant de la scène et les électeurs donnant l'impression de ne plus savoir à quel saint se vouer, l'actualité littéraire, pour sa part, se tourne du côté du religieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour toutes les chapelles et tous les goûts. D'abord, côté figure tutélaire, Le Monde et Libé nous rappelle que c'est le 500e anniversaire de la scission de Luther de l'Église catholique. En général, on se concentre sur les anniversaires de naissance ou de décès pour les auteurs. Eh bien non. Pour Luther, ce sera le jour du schisme, le 31 octobre 1517, sa véritable naissance. En quelque sorte. Mathieu Arnold et Marc Lienhardt dirigent à cette occasion l'édition en Pléiade du tome 2 de ses œuvres, et Mathieu Arnold en profite pour publier de son côté la biographie de celui dont Bernadette Sauvaget nous dit pour Libération qu'il est un géant de l'histoire européenne et aussi un penseur aux zones d'ombre. Et un penseur qui voit le diable partout. Et comme il le dit lui-même dans sa correspondance, il a juré, en parlant du diable, ma mort, je le sens bien, et il n'a de cesse de m'avoir dévoré. Eh bien, s'il me dévore, il dévorera, si Dieu le veut, une purge qui lui rétrécira le ventre et le cul. Le langage peut surprendre. Mais n'oublions pas que Luther est comparé très souvent à Rabelais et que l'époque n'est pas obligatoirement au politiquement correct. On découvre assez vite cependant dans cette biographie, selon Nicolas Weil, à côté du vitupérateur, le père et le mari aimant, le consolateur des endeuillés, des malades et des égarés, l'amoureux de la musique, il jouait du luth et même des oiseaux. Figure certes moins universelle, mais à la fois ouverte à une pensée philosophique qui tire du côté de Pascal et de Yankelevitch, Lucien Gerfagnon ouvre le Figaro littéraire, sa une et son dossier. La collection Bouquins accueille le deuxième tome de ses œuvres également et fait la part belle à sa philosophie du doute, lui qui est passé du grand séminaire à l'université de Caen. Lui aussi allie le goût de la spiritualité et le verbe cru. Un mélange de Pierre Dac pour l'humour et de Louis Jouvet pour le spectacle. Il m'a fait entrer dans la Rome antique comme dans un péplum, dit de lui un de ses anciens élèves, Michel Onfray. Du côté des religions, et toujours, et dans un louable souci d'œcuménisme, signalons le livre de Claude Agege, Les religions, la parole et la violence, chez Odile Jacob, qui s'interroge sur les mécanismes qui mènent immanquablement des discours sur la paix, l'amour et la fraternité, aux guerres, aux sacrifices et aux massacres. Sans apporter véritablement de réponse définitive à la violence religieuse, Claude Agege, nous dit Robert Maggiori dans Libération, s'interroge sur la parole sacrée, sacrée pour qui ? Comment ? On parle toujours des écritures saintes, de l'écrit, donc, et on insiste à juste titre sur le problème de la traduction, dont Agege montre au passage les effets bénéfiques. C'est en traduisant les évangiles que Mesrop Mashtots, par exemple, invente l'alphabet arménien. Il est cependant évident, poursuit Robert Maggiori en citant l'auteur, que les croyances religieuses notent des discours d'oralité. Les fondateurs sont en général bons à l'oral. Au passage, il note que c'est au 5e siècle avant notre ère que la Bible se fixe dans son texte définitif. Bouddha, Confucius, Platon, etc. fixent également leur contenu, et c'est l'écrit qui, en dictant sa loi, rigidifie les comportements qui peuvent dès lors compter sur le politique pour ce qui est de la violence, je cite à nouveau, dirigée contre les ennemis intérieurs, c'est-à-dire les schismatiques, les hérétiques, les apostats coupables de ne pas respecter l'orthodoxie, et contre les ennemis extérieurs, c'est-à-dire ceux qui adorent le dieu d'une autre religion. Voilà qui pourrait bien mettre un peu d'ordre dans les discours politiques, légèrement ou non teintés de religion que nous entendons ces jours-ci. Dernier thème, et non des moindres, en résonance lui aussi avec l'actualité à coup sûr, l'humiliation qui est à la une du cahier Livres et Idées de la Croix. À l'occasion de la parution du livre du médiéviste Michel Zinc, L'humiliation, le Moyen-Âge et nous. Sous ce titre prometteur, le livre publié chez Albin Michel propose une analyse de ce thème et ce mot, l'humiliation, qui, selon son auteur, ne cesse de monter en puissance dans les discours consacrés à notre quotidien depuis 4 ou 5 ans. « Nous redoutons l'humiliation », prévient le chapeau de l'article, mais nous ne pouvons nous empêcher de nous identifier à l'humilier. C'est un paradoxe. Cette ambivalence, nous dit Élodie Moreau, auteur de l'article, vient d'une contradiction qui travaille la civilisation médiévale. La société féodale et chevaleresque est une civilisation de l'honneur. Elle redoute et abomine l'humiliation plus que tout, mais sa religion, le christianisme, est une religion de l'humilité, dont la scène fondatrice est une scène d'humiliation. Le dépassement du paradoxe revient à l'auteur, cité par la journaliste. La continuité de l'humilité à l'humiliation n'a pas pour effet de les confondre, dit Michel Zinc, mais permet d'utiliser la première comme arme contre la seconde. L'humilité, en acceptant l'humiliation, lui échappe. Figure d'identification, rhétorique de séduction et de rejet, humilité et humiliation, peut-être après tout, que la solution est du côté des scientifiques lorsqu'ils examinent le discours du religieux et de ses figures d'adhésion. À la semaine prochaine.